Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aux États-Unis, la campagne présidentielle de 2020 vient de démarrer avec les deux premiers débats entre les 20 candidats démocrates. Ils se sont affrontés à Miami et voilà ce que la très pugnace Elizabeth Warren disait de la situation économique américaine lors de cette première soirée de débat pour les primaires démocrates.
Pour qui cette économie fonctionne-t-elle ? Elle marche très bien pour une proportion de plus en plus petite, tout en haut. Elle va très bien pour les grandes compagnies pharmaceutiques. Mais notre économie ne rend pas service aux gens qui ont besoin d'une ordonnance. Elle fonctionne très bien pour ceux qui veulent investir dans des prisons privées, mais pas pour les Afro-Américains dont les familles ont été déchirées, dont les vies ont été détruites. Cela va très bien pour les géants de l'industrie pétrolière, qui peuvent forer n'importe où, mais pas pour le reste d'entre nous qui ne peuvent que constater le changement climatique. Quand vous avez un gouvernement, quand vous avez une économie qui réussissent à ceux qui ont de l'argent et pas aux autres, ce n'est rien d'autre que de la corruption. Il faut nous y attaquer en transformant radicalement notre gouvernement, notre économie et notre pays.
Cette économie américaine dont Elizabeth Warren parle d'une manière si critique, Donald Trump, lui, n'arrête pas d'en vanter les mérites. Une croissance ininterrompue depuis 10 ans exactement, un chômage au plus bas depuis 50 ans, une autosuffisance pétrolière grâce au pétrole de schiste. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, Donald Trump ne cesse de faire pression sur la réserve fédérale, la banque centrale américaine, pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt et réduise encore le coût de l'argent. Est-ce parce que l'économie américaine a besoin de carburant pour se maintenir en forme? Et si cette intuition, cette affirmation est juste, est-ce parce qu'elle commence à donner des signes de faiblesse, cette économie? C'est ce que nous allons voir avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Anton Brender.
Bonjour.
Anton Brender, vous êtes économiste chez Candriam, une société de gestion d'actifs qui gère 120 milliards d'euros pour des institutions financières. Et vous êtes également professeur associé honoraire à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez signé et co-signé avec Florence Pisani au mois de janvier 2018 un livre intitulé « L'économie américaine » dans la collection Repères aux éditions de La Découverte. Avec vous dans ce studio, Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Denis Ferrand, vous êtes directeur général de Rexecode, un centre de recherche qui met la analyse économique au service des entreprises et du débat public. Je lis là tout bonnement ce qu'on peut trouver sur votre site internet. Vous êtes également président de la Société d'économie politique, une société vieille de 175 ans, me disiez-vous tout à l'heure. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, avec Lumna Anaki, qui nous rendra compte des aléas de la vie économique à New York et en Pennsylvanie. Je le disais en introduisant l'émission, l'économie américaine est dans un cycle de croissance qui dure depuis 10 ans. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel pour cette économie, comme pour toute autre économie internationale. Au premier trimestre 2019, on est sur un rythme annuel de 3,1% de croissance. Alors, tout va bien pour l'économie américaine, Anton Brender ?
Alors, il faut rappeler que c'est effectivement le cycle d'expansion le plus long que l'économie américaine ait connu. C'est aussi, il faut le rappeler, le plus faible. On n'a jamais eu une reprise aussi faible de l'économie américaine. C'est pour ça qu'elle est longue, mais elle est lente. Elle a été lente. Alors, tout ne va pas bien pour l'économie américaine.
Pourtant, 3% de croissance, vu les standards européens, par exemple, c'est très important.
Faut pas comparer les États. Oui, mon ami, assez longtemps avant d'arriver à cette croissance. Et le taux de chômage, on a mis aussi très longtemps à le faire descendre sur les niveaux extrêmement bas sur lesquels on est. Je pense qu'il faut revenir quand même sur les propos que tenait Elizabeth Warren. Ce qu'elle dit, alors il y a une dimension un tout petit peu quand même électorale.
Polémique,
électorale, c'est un discours polémique, politique et pré-électorale. Enfin, électorale d'ailleurs, puisqu'elle se présente d'abord à des primaires. Elle caricature un tout petit peu la situation, mais ce qu'elle dit n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que la croissance américaine qu'on a depuis maintenant plusieurs décennies est une croissance dont les effets ont tendance à se concentrer sur une partie de la population qui est de plus en plus, enfin, qui est réduite. Et ce qui caractérise l'économie américaine, c'est que le bas de la pyramide des revenus a tendance à voir ses gains de pouvoir d'achat être extrêmement faibles, et un environnement social, en matière de santé en particulier, qui effectivement n'a pas toujours évolué comme la moyenne, le taux de croissance de l'économie.
Et donc, aujourd'hui, cette économie, est-ce qu'elle est sur un régime de bonne santé, je dirais ?
Vous savez, bonne santé, ça dépend de ce qu'on appelle bonne santé. Oui, l'économie, elle va bien. Sa croissance, vous venez de le rappeler, elle est à 3%. Le taux de chômage est au plus bas, il n'y a pas d'inflation. Donc ça, c'est les critères habituels de santé de l'économie. Ceci dit, si vous regardez, est-ce que cette économie est de plus en plus dynamique ? Vous apercevez qu'en termes de gains de productivité, les gains de productivité ont tendance à être relativement faibles par rapport à ce qu'on a observé par le passé.
Et pourquoi est-ce que des gains de productivité importants, c'est important pour une économie quelle qu'elle soit ?
Ça nous ramène à ce que Donald Trump souhaiterait. Donald Trump souhaiterait que l'économie croisse beaucoup plus vite que ce qu'elle croit. Or, l'économie américaine, c'est une économie dans laquelle il y a une contrainte qui pèse sur sa croissance. C'est tout simplement celle de la démographie. Si on n'accueille pas aux États-Unis plus d'immigrés, eh bien l'évolution de la population active, elle a tendance à contraindre le potentiel de croissance.
Attends, vous répondez pas à ma question.
Si, je vais y répondre. Si vous avez une contrainte sur la démographie, qui fait que en gros la population en âge de travailler croît à moins de 1%, si vous voulez que votre économie continue de croître à 3%, voire plus, puisque quand Donald Trump s'est présenté, il voulait qu'elle croisse à 6%, il avait annoncé 6%, comme potentiel de croissance. Il faut que la productivité fasse la différence. C'est précisément là qu'il y a un vrai problème qui est posé.
C'est-à-dire comme il y a moins de monde dans les, dans les entreprises.
Il n'y a pas beaucoup plus de monde pour travailler. Ouais. Il faut que les gens qui travaillent soient de plus en plus productifs. Et c'est essentiellement sur ces gains de productivité que repose le surcroît de potentiel de croissance que Donald Trump prétend pouvoir trouver dans l'économie. Mais pour l'instant, il y a des gains de productivité, mais ils sont relativement modestes, beaucoup plus modestes que ce qui serait nécessaire pour soutenir une croissance très au-delà des 3% qu'on a actuellement.
Denis Ferrand, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans cette économie américaine ?
En tout cas, du strict point de vue conjoncturel, c'est vrai que c'est tout à fait pertinent de voir une économie américaine qui est dynamique, voilà, un cycle de 10 ans de croissance qui s'est façonné, mais qui s'est façonné quand même aussi avec l'utilisation de certains éléments de stimulation qui ne sont pas pérennes. On est quand même à une situation où le déficit public a été porté aux environs de 6 points de PIB à de produit intérieur brut, pardon. À un moment où on est en haut de cycle, on devrait être normalement dans une situation où le déficit public est beaucoup plus faible, ce qui donnerait de la marge de manœuvre en cas de retournement.
Or, arrêtons-nous sur ces notions-là, sur ces explications-là. Pourquoi est-ce qu'il est paradoxal que le déficit public soit élevé alors qu'on est, comme vous le dites, en haut de cycle, c'est-à-dire que depuis 10 ans, il y a une croissance économique ininterrompue?
Parce que la croissance va générer un flux de recettes fiscales qui permet d'avoir une situation un peu plus équilibrée des comptes publics. On est dans une situation où la croissance en fait peut se nourrir d'elle-même parce que vous avez un flux de consommation qui est suffisant pour pouvoir générer une croissance assez forte. Et donc vous n'avez pas besoin d'en remettre en termes de dépenses publiques ou en termes de réformes fiscales pour stimuler l'activité. Or l'année 2018 a été une année de très forte croissance, mais qui a été portée en partie par les effets d'une réforme fiscale d'ampleur qui avait été adoptée par Donald Trump au tout début de l'année 2018. Donc vous avez une croissance qui repose quand même en partie sur une surstimulation de cette économie et une stimulation qui se fait alors que l'économie est déjà dans une situation de ce que les économistes appellent le haut de cycle économique. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation où l'économie, d'une certaine manière, eh bien, elle en délivre plus que ce que spontanément est en capacité de délivrer. Et cette capacité à délivrer renvoie exactement aux éléments qu'évoquait Anton Brander à l'instant, à savoir quel est le fondamental de croissance de l'économie américaine. Ce fondamental, il s'apprécie à partir de deux paramètres que sont l'évolution de la population en âge de travailler, d'une part, et que sont les gains de productivité, d'autre part. Or, la population en âge de travailler, elle ralentit par un effet démographique classique, mais elle ralentit aussi pour des raisons de santé, et c'est notamment un des éléments que pointe Elizabeth Warren, qui est ce que l'on a appelé la crise des opiacés aux États-Unis, qui a retiré une partie de la population active et en particulier de la population pauvre, où il y a un problème sanitaire majeur aux États-Unis. C'est quand même un pays où l'espérance de vie recule. C'est quand même pas banal d'avoir
parmi les pays développés.
Ce qui est quand même extrêmement rare. Donc quand on peut parler d'économie en bonne santé, mais quand la population elle-même n'est pas forcément en bonne santé, il y a peut-être déjà un petit souci. Et puis deuxième point sur la productivité. Pourquoi est-ce qu'on a un tel ralentissement de productivité? En plus, quand on pense économie numérique, quand on voit le dynamisme des grandes entreprises, les Google, les Amazon, les Facebook et ce que l'on appelle les GAFAM, on se dit, mais attends, c'est pas possible qu'il y ait un ralentissement des gains de productivité. Ben, si, parce qu'on va être envoyé au deuxième aspect, au deuxième élément de surstimulation de l'économie américaine qui vient de la politique monétaire. Avec une politique monétaire qui a des taux qui sont très écrasés,
La politique monétaire, précisez-nous ce que c'est.
Alors, la politique monétaire, donc mise en œuvre par la Federal Reserve, donc
la Banque centrale américaine,
est une politique monétaire qui a où on va piloter des taux directeurs et donc qui donne un peu le coût de l'argent dans l'ensemble de l'économie. Donc, elle pilote le taux d'intérêt. La Banque centrale peut aussi intervenir au travers d'achats d'actifs qu'elle peut effectuer sur le marché.
Si je suis un consommateur américain, Antoine Brander, à quel taux est-ce que je peux emprunter de l'argent?
Si vous voulez acheter une voiture, par exemple, vous allez emprunter à des taux qui doivent être de l'ordre de 4-5%. Je ne l'ai pas fait récemment, mais je pense qu'on doit être dans ces grandeurs-là. Il n'empêche que le consommateur, il va être sensible à un mouvement de taux dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs américains bénéficient moins. Les ménages américains, pas seulement en tant que consommateurs, mais aussi ceux qui veulent acheter un bien immobilier, ils sont moins sensibles aux mouvements de taux, tout simplement parce que les souvenirs de la crise de 2008, qui a été une crise qui était centrée sur le crédit immobilier en particulier, ces souvenirs sont encore présents. On a des banques qui sont beaucoup plus prudentes qu'elles n'étaient auparavant, des conditions de crédit qui sont moins faciles, ce qui fait que le même niveau de taux aujourd'hui, n'a pas le même effet incitatif sur les ménages qui sont ceux qui répondent le plus couramment au taux d'intérêt.
La classe moyenne.
Oui, la classe moyenne, mais même pour les autres. Mais effectivement, pour les classes moyennes en particulier, sans parler des moins favorisés, les conditions de crédit restent relativement restrictives.
De différents.
Le taux d'endettement des ménages, par exemple, continue d'être sur une tendance de recul.
De recul.
Alors qu'on avait eu justement toute cette dette des ménages qui s'était accumulée juste avant le déclenchement de la crise de 2007-2008. Cette crise d'ailleurs qui était nichée en partie dans ce fort endettement des ménages et surtout des ménages les moins solvables. On est plutôt dans un mouvement de repli où la dette des ménages recule. La dette hypothécaire, en revanche, il y a un autre segment de dette qui est plutôt en hausse et qui est un des points de fixation d'ailleurs des candidats démocrate, qui est la question de la dette des étudiants, qui est un autre élément
qui est présenté comme potentiellement une autre source d'une future crise.
Oui, mais qui n'a pas le potentiel de déflagration, qui n'est pas aussi massif.
Et elle est garantie par l'État. Il faut se rappeler que la grande différence entre la dette immobilière et la dette étudiante, c'est que c'est une dette qui est garantie par l'État, qui est restructurée par l'État. Au fur et à mesure des problèmes qui se manifestent, c'est pour ça aussi qu'on a des personnes qui ont 60 ans et qui ont encore une dette étudiante à rembourser.
Ah oui, c'est complètement
fou.
Ah
oui, parce qu'on restructure. Non, on peut dire que c'est bien d'un côté, parce qu'on les a pas forcés à la rembourser avant, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Donc, on restructure cette dette au fur et à mesure que des problèmes se posent. Et ça, c'est quelque chose qui fait que c'est un problème qui est normalement moins aigu et moins explosif. Et moins important par sa taille.
Ce genre de questions est effectivement évoqué par les candidats démocrates aux primaires. Le deuxième débat se tenait la nuit dernière à Miami, puisque je vous rappelle que cette émission est enregistrée, et que donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que les deux favoris des sondages, Joe Biden et Bernie Sanders, se sont affrontés avec quelques autres postulant à l'investiture démocrate. Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, n'a pas fait d'étincelle. Il a déroulé le programme qu'il défend depuis des années. L'ancien vice-président, par contre, grand favori des sondages, est apparu affaibli plutôt que de tenter de contredire ses concurrents. Il a concentré ses attaques sur le président Trump et s'est posé en défenseur des classes moyennes. On écoute Joe Biden.
Donald Trump pense que Wall Street a construit l'Amérique. Mais c'est la classe moyenne ordinaire qui a construit l'Amérique. Mon père avait coutume de me dire « Joe, un boulot, c'est bien plus qu'un salaire. C'est de la dignité, c'est du respect. C'est de pouvoir regarder ses enfants dans les yeux et leur dire que tout ira bien. » Trop de personnes de la classe moyenne ou pauvre ont sombré et ne peuvent plus dire ça. Ce que je dis, c'est que nous devons être honnêtes. Nous devons être convaincus que pour retrouver sa dignité, la classe moyenne doit pouvoir se payer une assurance maladie. Elle doit être sûre de pouvoir continuer son éducation et la financer. Elle doit être sûre de respirer un air propre et d'avoir de l'eau potable. Donald Trump nous a mis dans une horrible situation. Nous avons d'énormes inégalités de revenus. Et s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que nous pouvons drastiquement réduire la masse de 1 600 milliards de dollars qui échappent à l'impôt. Et j'éliminerai les réductions fiscales accordées aux riches par Donald Trump.
Joe Biden, l'ancien vice-président américain de Barack Obama, lors du second débat des primaires démocrates à Miami, donc il y a quelques heures. Anton Brender, est-ce qu'il y a vraiment une telle masse de financière qui échappe à l'impôt aux États-Unis après les réformes fiscales de Trump?
Dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle des dépenses fiscales, hein, des niches fiscales qui font qu'une partie des revenus échappe aux impôts. Il y en a aux États-Unis, il y en a un peu plus, c'est pas évident d'ailleurs, après la réforme fiscale. Mais pour revenir sur ce que dit quand même Joe Biden, le point fondamental, c'est l'érosion des classes moyennes. Ça a été vraiment ce dont il a parlé au début de son intervention, et c'est le phénomène qui marque les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, parce qu'on observe à peu près le même type d'évolution avec un peu de retard dans un pays comme la France. C'est un phénomène qui est engagé aux États-Unis depuis 3 décennies au moins. Et on voit effectivement, par la suppression des postes ouvriers, par la suppression d'un certain nombre d'emplois de bureaux, une érosion des classes moyennes et une polarisation, hein, des revenus et des emplois vers des emplois de haut niveau, relativement bien rémunérés, et d'autres qui sont non seulement mal rémunérés, mais pour lesquels les couvertures sociales, les couvertures d'assurance santé sont nettement plus modestes. Et c'est ça, je pense, le cœur du problème que Joe Biden veut adresser. Pour ça, il a besoin de pouvoir dire « je peux mobiliser des ressources ». Budgétaire, et c'est pour ça qu'il parle de toutes ces niches fiscales, hein, qui existent. Mais je répète, c'est quelque chose qui existe un peu partout dans le monde.
Oui, de différent.
Ce phénomène de polarisation des emplois est quelque chose, d'ailleurs, qui avait été très bien décrit par un ancien ministre du Travail, celui à l'époque de Clinton, qui montrait bien qu'on allait progressivement s'orienter vers des métiers où ceux qui sont au milieu de la distribution, c'est-à-dire effectivement tous ceux qui ont fait la représentation que l'on a de l'économie américaine, cette classe ouvrière, cette classe d'employés qui était le cœur de cette population, eh bien ce cœur s'atrophie et est remplacé par des métiers qui sont des métiers où, avec des personnes qui sont très insérées dans la mondialisation, dans l'économie numérique, avec des niveaux de revenus très importants, et puis à côté de ça, eh bien des métiers de plus basse qualification et des métiers qui apporte aussi des services à la personne. Et d'une certaine manière, bien, l'économie américaine est en train presque un peu de se figer dans sa structure d'emploi entre ces deux pôles, et puis eh bien comme une vallée de la mort, d'une certaine manière, au milieu, avec une contraction.
Le milieu, c'était le fondement de ce qu'on a appelé l'American way of life. Hein. C'est les gens qui vivaient dans une petite maison, avec une voiture, tout ce qu'il fallait comme confort moderne. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est remis complètement en cause. C'est tout un modèle de la société américaine.
Je lisais, en préparant cette émission, que les 2/3 de la croissance économique américaine, en règle générale, de l'activité économique, c'est la demande intérieure, c'est la consommation. Alors, si il y a une paupérisation croissante de cette population américaine, en tout cas des gens qui consomment moins, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ça ne remet pas fondamentalement en cause ce système américain, Anton Brender?
Il faut faire attention, la consommation, ça reste le pivot de la croissance américaine, si vous regardez pourquoi. Mais ça l'est encore. Malgré ces tendances à la polarisation, ça reste le pilier de la croissance américaine, et c'est ce qui a soutenu, quand vous regardez derrière les 3 points de croissance dont on parlait en début d'émission, vous en avez 2, hein, qui sont dus à la consommation, et ça, c'est quelque chose qui, sur le long terme, perdure. On n'en est pas à voir un effondrement de la consommation. Les riches consomment aussi. Et une grande partie de la consommation est le fait d'une petite partie de la population.
Une petite partie.
Une petite partie. Disons que les riches, qui représentent une partie relativement plus modeste de la population, représentent une partie beaucoup plus importante de la consommation. La consommation des pauvres, c'est quelque chose de modeste, hein, par rapport au nombre de personnes que ça représente dans le total de la consommation américaine. J'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est une évidence, hein. Le tiers le plus riche de la population américaine doit représenter 80% ou 70% de la consommation des ménages américains. La dépense de consommation.
Mais c'est une situation absolument terrible que vous décrivez.
Elle est malheureusement pas nouvelle, et il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, que les choses sont comme ça.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie américaine avec 2 invités, Anton Brender, économiste chez Candriam, professeur associé honoraire à l'Université Paris-Dauphine, et le directeur général de l'Institut Rex et Code, Denis Ferrand. On va partir sur le terrain, voir ce qui se passe du côté de l'emploi. Le chômage, on le disait tout à l'heure au début de l'émission, est au plus bas depuis 50 ans. Mais les chiffres de création d'emplois au mois de mai ont été décevants et de nombreuses usines ferment, notamment en Pennsylvanie. Lockheed Martin, grand groupe américain de défense, a annoncé la fermeture prochaine de l'une de ses usines dans les prochains mois. L'affaire a retenu l'attention du président Trump. La Pennsylvanie est en effet un des états clés dans la prochaine élection présidentielle. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Anaki en Pennsylvanie.
À 2h30 de New York, nous arrivons à Coatesville. 35 000 habitants, des pelouses fleuries, des maisons à l'américaine. Une petite ville tranquille au cœur de la Pennsylvanie. Mais il y a 3 semaines, les habitants ont appris que l'usine de construction d'hélicoptères allait disparaître à la fin de l'année. L'entreprise a refusé de nous accueillir et sur le parking, rares sont les employés qui acceptent de nous parler.
Je ne suis pas surpris que Lockheed soit tellement en crise qu'il ferme. Je me sens mal. Je vais probablement être muté ailleurs. Je n'ai pas le choix, il faut bien payer les factures.
Il n'a pas voulu nous donner son nom, mais cet employé travaille ici depuis 12 ans, bien avant que l'usine originale Sikorsky ne soit rachetée par l'un des plus grands groupes de défense et de sécurité du pays.
Le gouvernement américain devrait s'impliquer davantage. Il devrait empêcher des entreprises d'en racheter d'autres, comme Lockheed, racheter Sikorsky, uniquement dans le but de les dissoudre par la suite parce qu'ils représentent une compétition, du gros business. C'est ce que le président Trump veut. Il veut que le gros business rachète d'autres business pour tuer le business. Il pleure pour l'emploi, mais c'est ce que le business fait.
Dans le restaurant du coin où de nombreux employés ont leurs habitudes, la fermeture annoncée de l'usine est au cœur de toutes les discussions.
C'est triste et malheureux. Certains d'entre eux travaillent ici depuis 30 ans. On a des relations fortes avec eux. Pour nous, ce sont John, Chuck et d'autres prénoms. Ce sont des gens bien, très importants pour notre communauté. Ils ont construit leur famille ici. Ils vont beaucoup nous manquer.
À la tête du Harry's, John Limberis a vu la situation de l'usine changer rapidement ces dernières années.
Ils faisaient venir des travailleurs de partout dans le pays. Il y avait de la demande en logement, bien sûr une forte demande en bière, boissons et nourriture. On a vu leur activité atteindre 1600-1800 personnes qui travaillaient en 3-8. Et ça a vraiment boosté la région. Mais on a vu aussi ces dernières années que ça a énormément changé. Ils ont commencé à diminuer les shifts, à virer des employés, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de boulot.
Pour le moment, les responsables de Lockheed Martin assurent qu'ils vont essayer de transférer les employés vers 2 autres sites de l'entreprise. Mais sur les 465 personnes concernées, beaucoup vont tout de même se retrouver au chômage. À la mairie, David Reynolds a organisé plusieurs réunions avec les travailleurs dont une grande majorité dit ne pas savoir ce qu'ils vont devenir.
Ce sont des travailleurs extrêmement qualifiés dans un secteur très spécifique. Ce genre de postes sont difficiles à trouver et très bien payés. La plupart d'entre eux vivent très mal qu'ils n'aient pas été prévenus plus longtemps à l'avance. Certains ont été mis à la porte le jour même de l'annonce de la fermeture. À la minute où vous terminez de travailler sur les derniers appareils, c'est terminé pour vous.
You're done. La fermeture de l'usine et le départ annoncé de nombreux employés va avoir un impact sur l'économie de toute la ville. Rien qu'en impôts locaux, Coatesville va perdre plus de 130 000 euros de revenus par an.
Nous avons de nombreux projets en cours. Nous devons construire un nouveau pont, nous voulons renforcer nos forces de police pour avoir des patrouilles 24 heures sur 24, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais avec un manque de 150 000 dollars, ça va être difficile pour nous de renforcer nos services. Ce sera déjà une chance si on arrive à maintenir ce qu'on a aujourd'hui.
L'usine Sikorsky est spécialisée dans la construction d'hélicoptères civils, mais aussi militaires. C'est notamment ici que sont produits les hélicoptères qui décollent et atterrissent à la Maison-Blanche pour transporter les présidents. Donald Trump a d'ailleurs récemment appelé les dirigeants de l'entreprise à préserver les emplois.
Le président Trump est intervenu dans ce dossier. On espère qu'avec un peu de pression, il y aura de nouveaux contrats. On espère que le gouvernement peut faire quelque chose pour nous. Même si l'économie va bien, on n'a juste pas de chance d'être dans le secteur qui va mal.
Lockheed Martin a confirmé être en discussion avec le président Donald Trump pour tenter de trouver des solutions. À Coatesville, beaucoup espèrent qu'un autre groupe viendra s'installer dans les locaux de l'usine pour créer de nouveaux emplois dans la région.
Un reportage signé Lumna Anaki, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, on parle de l'économie américaine. Anton Brander, est-ce que cette situation est emblématique d'un certain mal-être dans l'industrie américaine?
Je pense qu'elle exagère ce mal-être. Hein. Tout à fait honnêtement, l'industrie manufacturière aux États-Unis, elle s'est fortement réduite. Son poids dans l'économie s'est réduit. Le nombre de travailleurs, le nombre d'employés de ce secteur n'a pas arrêté de se réduire depuis des décennies. Ceci étant, depuis 2 ou 3 ans, on voit le nombre d'employés du secteur manufacturier aux États-Unis réaugmenter un peu. Pas du tout à la hauteur des promesses que fait Donald Trump, ni même des mesures qu'il a prises, mais on le voit réaugmenter. Donc s'il y a des emplois qui disparaissent dans telle entreprise, il y en a d'autres qui ont dû se créer et qui se créent ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on crée à nouveau des emplois dans l'industrie manufacturière, beaucoup moins qu'avant, mais on en crée. Et deuxième chose, il faut rappeler que l'économie américaine, par ailleurs, c'est devenu depuis longtemps maintenant une économie dite de service, et qu'au total, jusqu'au léger affaiblissement qu'on a constaté il y a quelques mois, elle a créé en moyenne sur les 10 dernières années à peu près 200 000 emplois par mois. 200 000 emplois par mois de façon quasi ininterrompue pendant 10 ans, c'est quelque chose qui est remarquable. Et c'est ça qui a permis, bien sûr, au taux de chômage de baisser comme il l'a fait. Et c'est ça aussi, on pourra peut-être y revenir, qui explique pourquoi, à un moment, la Réserve fédérale a jugé bon de monter les taux.
Denis Ferrand.
Oui, il y a un point qui est très important sur l'industrie. En fait, il y a 2 points importants à avoir présents à l'esprit. C'est, un, la dimension politique. Ce n'est pas un hasard si là, le reportage se passe en Pennsylvanie. Il y a une dimension politique très importante au secteur industriel qui tient aussi à sa localisation. C'est-à-dire que là, on parle un peu d'une vieille industrie localisée en Pennsylvanie qui est réputée être un des swing states. Un des états qui peut basculer lors des élections, soit du côté démocrate, soit du côté républicains, comme l'est l'Ohio, par exemple, autre terrain industriel important où il y a aussi des mines de charbon. Donc, il y a une dimension très politique aussi à la localisation de l'industrie au regard de ces enjeux électoraux. Et puis, il y a un élément qui est quand même tout à fait important, qui est un peu en sous-jacent du fait que l'industrie, globalement, à recréer de l'emploi, c'est le fait que l'économie américaine s'est aussi redonnée d'un volant de compétitivité au travers de la baisse très importante du coût de l'énergie. Le fait que l'économie américaine désormais produise du pétrole et est désormais quasiment autosuffisante en pétrole a été aussi un facteur d'abaissement du coût de l'énergie qui a permis aussi de redonner un peu de marge de manœuvre au secteur industriel et donc de lui redonner une capacité à croître. Pour autant, on voit bien que par rapport aux objectifs, par exemple que Trump pouvait assigner aux tensions commerciales qu'il y a avec la Chine, qui était un enjeu de relocalisation de l'industrie qui avait pu être délocalisée, de revenir sur le territoire américain, cet enjeu pour l'instant n'est pas atteint et j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait qu'il soit atteint à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que peut-être que les États-Unis vont moins importer de Chine, mais il va y avoir plutôt une substitution d'une importation en provenance du Mexique, du Vietnam, que l'on voit actuellement très, très fortement. Et le Vietnam, d'ailleurs, est désormais l'une des prochaines cibles de Donald Trump.
Oui, il l'a déjà évoqué, d'ailleurs.
Oui, hein? Oui, tout à fait.
Mais pourquoi est-ce que Donald Trump fait-il pression à ce point sur la Réserve fédérale américaine pour qu'elle baisse ses taux? Il a mis en cause Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale. Pourquoi Anton Bonder?
Ça fait à peu près un an qu'il attaque frontalement la Réserve fédérale. Pendant toute une période, c'est parce qu'elle montait les taux. Je pense que Donald Trump n'a toujours pas vraiment compris pourquoi, enfin, ou en tout cas fait semblant de ne pas comprendre pourquoi la Réserve fédérale montait les taux. Elle a monté les taux jusqu'en décembre dernier. C'était pour freiner l'économie. Et pourquoi est-ce qu'elle voulait freiner l'économie? Ben, tout simplement parce que il n'y avait plus de perspective de croissance de la main-d'œuvre et sans gain de productivité plus fort que ce qu'on observait, il fallait absolument freiner la croissance économique pour l'ajuster à celle de son potentiel de production. C'est ça qu'essayait de faire la Fed. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump, à lui tout seul, arrive à créer suffisamment d'incertitudes pour faire ce qu'il reproche à la Réserve fédérale de faire. C'est-à-dire que la Réserve fédérale, en montant les taux, voulait freiner l'économie, mais lui, en créant de l'incertitude, il freine les décisions d'investissement et avec elles, l'économie. Autrement dit, Donald Trump avait pris des mesures de baisse d'impôts qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont bénéficié d'abord aux entreprises. Il a fortement baissé le taux sur les profits des entreprises en disant « cela va favoriser l'investissement des entreprises ». Mais c'est ce qu'on ne constate pas. On constate que l'investissement des entreprises, au lieu d'accélérer, est en train de décélérer. Non pas parce que la Réserve fédérale a monté les taux, mais parce que l'incertitude créée par cette ambiance de tension commerciale, eh bien, freine les décisions des entreprises en matière d'investissement et peut-être même demain, dans certains secteurs au moins, en matière de recrutement. Quand vous ne savez pas dans quel contexte tarifaire, dans quel contexte politique vous allez fonctionner, ben vous retardez un tout petit peu, vous attendez avant de vous décider. Et donc d'un côté, il reproche à la Fed de freiner l'économie, de ne pas vouloir la stimuler suffisamment, mais de l'autre, lui-même par l'agitation et l'incertitude qu'il crée, ben il fait la même chose. Il fait ce qu'il reproche à la Fed de faire.
De différence sur la réserve fédérale.
Mais la Fed, en réalité, a un problème qui va bien au-delà des injonctions trumpiennes qu'il peut avoir. Bon, déjà, la Fed est indépendante. Ça, c'est quand même le préalable. Et puis, ben surtout, la Fed, elle est coincée dans une ambiguïté. C'est-à-dire que effectivement, elle doit freiner l'économie parce que si on était resté sur le rythme que l'on avait observé l'année dernière, à savoir aux environs de 3% de croissance pendant toute l'année, eh bien c'est un rythme qui va au-delà de ce que l'économie est capable de soutenir durablement. On arrive dans des situations où aux États-Unis, vous avez 40% des entreprises indépendantes, des PME disons, qui se déclarent confrontées à des difficultés à pourvoir un ou plusieurs postes. Cela ne s'est jamais vu aux États-Unis. On n'est jamais monté aussi haut. Donc quand vous avez ces situations de tension qui tiennent à ce que durablement, qui a eu pendant longtemps des créations nettes d'emplois importantes aux États-Unis, vous avez du mal à recruter. L'économie américaine, c'est une économie qui fonctionne presque comme un manuel d'économie. C'est-à-dire, quand vous avez des tensions qui se forment, il y a petit à petit, vous avez une accélération salariale qui est en train de s'installer, et après, eh bien, une augmentation des prix qui peut peut-être arriver, qui ne s'est pas manifesté jusqu'à présent, pour l'instant. Mais la Fed, justement, elle regarde ceci, elle regarde ce point, il faut que je limite les tensions dans l'économie pour éviter qu'il y ait un dérapage. Ça, c'est le premier point qu'elle a dans son viseur. Le deuxième point, c'est la grande fragilité qui tient aux entreprises, à l'endettement des entreprises américaines. C'est quand même tout à fait impressionnant de voir comment la Fed n'a pas attendu Trump pour tourner Kazakh à la fin de l'année 2018. À la fin de l'année 2018, la Fed disait, pour 2019, j'anticipe 2 augmentations de taux directeurs au cours de l'année 2019. Ça, c'était le message qu'elle portait autour du 18 décembre. 3-4 janvier, à peu près, en fait, la Fed change complètement de discours et dit, non, je ne vais pas augmenter mes taux en 2019. C'est pas parce que Trump est passé par là, non, c'est simplement parce que vous avez eu à un moment une montée des taux sur les obligations des entreprises qui sont de catégorie relativement faible, des entreprises qui se sont fortement endettées et qui sont très fragiles face à une remontée des taux qui serait très importante, face à une croissance qui ralentirait par trop et face à une dérive des salaires qui serait par trop importante. Donc la Fed doit ralentir l'économie et en même temps ne doit pas monter ses taux trop haut parce que sinon elle risque de fragiliser des entreprises qui se sont fortement endettées au cours de la période récente.
Ça, c'est une menace qui pèse sur l'économie américaine.
Alors, entre-temps, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, juste une précision, ce qui a dégradé les conditions d'endettement des entreprises américaines à la fin de l'année dernière, c'est aussi la peur qui s'est installé de voir l'économie tomber en récession. Il faut rappeler qu'à la fin de l'année dernière, on a vu la bourse américaine s'écrouler littéralement. On a eu une des plus fortes baisses de bourse qu'on ait jamais observées aux États-Unis, 20% l'espace de quelques semaines de baisse de la bourse. Et c'est tout ça qui a contribué à la dégradation des conditions financières et donc aussi des conditions d'endettement des entreprises. Je pense que les entreprises américaines ont effectivement une charge d'endettement, plutôt un montant d'endettement qui est monté, mais il faut faire très attention, les paiements d'intérêt qu'ils font n'ont jamais été aussi bas. Et donc effectivement, ça illustre le point qui vient d'être évoqué, il ne faut pas que les taux d'intérêt montent trop, mais il faut rappeler aussi que les entreprises américaines, elles se sont endettées à des taux qui sont souvent fixes, et donc ils ne vont pas forcément monter si les taux montent, mais il n'empêche, actuellement, le poids de la dette des entreprises, il est élevé, et donc la Fed doit faire attention à tout ça. Malgré tout, elle voulait que l'économie ralentisse. Maintenant, elle n'a plus besoin de rien faire parce que le risque qu'elle essaie de maîtriser aussi, et c'est pour ça qu'elle a changé complètement langage, c'est qu'elle voulait que l'économie ralentisse, c'est son rôle, mais elle ne veut pas, c'est aussi son rôle, que l'économie entre en récession parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Le chômage, qui a baissé fortement, lui, il commencerait à remonter et ça aussi, la mission de la Fed, mais c'est de l'éviter.
Est-ce que le chômage ne baisse pas aussi parce que les gens appelés à entrer sur le marché du travail, ils sont en nombre réduit. Enfin,
attention, le chômage a baissé. Il a baissé plus lentement que les créations d'emplois ne l'auraient laissé penser, tout simplement parce que beaucoup de gens sont revenus sur le marché du travail. On est aux limites maintenant de ce retour sur le marché du travail. Comme le disait Denis il y a une seconde, les entreprises ne trouvent plus. Alors, on parlait des petites entreprises, mais si je n'ose pas appeler ça une anecdote, mais Jimmy Damon, qui est le patron de JP Morgan, la plus grosse banque mondiale, expliquait il n'y a pas longtemps que sa banque avait recruté des gens sortant de prison. C'est la première fois qu'on voit un président de banque américain se mettre en avant le fait qu'il recrute des gens qui sortent de prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'en trouvait pas.
C'est les banquiers qui l'a recruté, qui sortaient de prison.
Il n'a pas dit qu'ils étaient des banquiers, il a dit juste qu'ils sortaient de prison, il n'a pas dit quel emploi il leur a confié. Mais c'est quand même quelque chose qui illustre l'extrême tension qui existe aujourd'hui sur le marché du travail américain. Alors, et c'est bien pour les gens qui sortent de prison, parce que ils avaient peu de chance, dans une conjoncture normale, de trouver un emploi.
Voilà peut-être un secteur qui va fournir de la main-d'œuvre à la banque JP Morgan. C'est le secteur de la mode à New York, le secteur de la fabrication. Le Garment District est aujourd'hui en crise, les ateliers ferment, les magasins aussi. Et des milliers de personnes se retrouvent à la rue, en tout cas sans emploi momentanément. Voilà un nouveau reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Anaki, auprès de ceux qui se battent pour rester dans ce quartier.
Nous sommes dans le Garment District, le quartier historique du textile new-yorkais à quelques rues seulement de Times Square. Ici, plus de 5000 travailleurs chinois, latino-américains, africains s'activent derrière les machines des usines. Mais le quartier connaît l'une des pires crises de son histoire. Au 14e étage d'un des immeubles, Elmer Lin décrit une situation critique.
Aujourd'hui, on vit des hauts et des bas. Il y a des journées où nous sommes très occupés, mais il nous arrive aussi de ne pas travailler pendant des semaines.
Elmer Lin est manager de cet atelier textile depuis 2008. Au cours des deux dernières années, il a dû réduire son personnel de plus de moitié.
Comme vous pouvez le voir, on n'a plus tellement de personnel. Et nous sommes encore en train de réduire, cette fois en termes de surface. Je ne peux plus me permettre de payer les loyers pour tout cet espace.
Et il n'est pas le seul. Avant, tout l'immeuble était occupé par des usines ou des ateliers. Aujourd'hui, seuls 3 étages sur 18 le sont encore. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des gens que vous connaissez, des propriétaires d'ateliers fermés ?
Je me dis qu'on est peut-être les prochains.
Dans le reste du quartier, des commerces sont vides, des rideaux sont baissés. Farid Maharaj possède un magasin de tissus. Pour lui, les prix élevés des loyers ne sont pas la seule raison de la crise.
Il y a une réelle compétition des pays étrangers. Vous allez au Vietnam, Bangladesh ou en Chine, il y a beaucoup de pays asiatiques qui fabriquent des vêtements pas chers.
Entre mars 2017 et mars 2018, l'industrie textile du quartier a perdu plus de 1000 emplois. Pour Gerald Skup, le vice-président de l'Alliance du Garment District, les décisions politiques influent également sur le marché, comme les tensions diplomatiques avec la Chine ou certains accords commerciaux ratifiés par le président Donald Trump.
Il n'y a aucun doute que les accords commerciaux, par exemple NAFTA, ont un impact. Mais c'est une accumulation, une succession de plusieurs éléments économiques qui se manifestent ainsi dans notre quartier.
Fin 2018, pour tenter de préserver le quartier, la ville de New York a lancé un plan d'urgence de plusieurs millions de dollars qui prévoit notamment des réductions d'impôts pour les propriétaires d'immeubles. Objectif, les inciter à ne pas augmenter les loyers.
Un reportage signé Lumna Anaki, donc à New York, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, avec deux invités, Anton Brender et Denis Ferrand. Alors ce reportage, il évoque une situation de crise qui nous est familière à nous en Europe, le textile qui a disparu.
Aux États-Unis aussi, oui, ça fait États-Unis. Des années que le textile disparaît. Mais là, je voudrais quand même corriger un tout petit peu l'impression que ça donne, parce qu'on entend effectivement qu'il y a un millier d'emplois qui ont disparu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on crée 200 000 emplois, vous on l'a dit, par mois. Ouais. Il faut savoir qu'on en détruit actuellement, toutes les semaines, vous avez plus de 200 000 nouvelles demandes d'allocation chômage. C'est un chiffre qui est publié toutes les semaines, il y a 200 000, toutes les semaines. Nouvelles destruction d'emplois, des gens qui se présentent à la NPE pour déposer un dossier d'allocation chômage.
Pôle emploi en France.
Comment on dit Pôle emploi, vous avez raison. Mais aux États-Unis, c'était une traduction libre de ce qu'on dit aux États-Unis. Moi, j'utilise les vieux termes. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, ça vous donne une idée de la rotation qu'il y a. On détruit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois par jour dans une économie comme l'américaine, et on en crée
autant.
Un tout petit peu plus, parce qu'en termes nets, jusqu'à il y a un mois ou deux, on en crée 200 000 par mois. Donc effectivement, on peut toujours prendre une photo qui vous dit, là on vient de détruire 1000 emplois, oui, ce qui est le cas. C'est exactement.
Ça ne prétend pas
et
être autre chose
non, justement,
photo.
Mais il faut toujours la remettre en perspective. En même temps, ailleurs, y compris pas très loin de l'endroit où a été fait le reportage, on a dû en créer un assez grand nombre aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est une caractéristique des grandes économies modernes. Il y a une rotation des créations, des destructions d'emplois qui est extrêmement forte. Quant au textile lui-même, c'est un phénomène qui est engagé depuis très longtemps et c'est un miracle qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui fabriquent des vêtements aux États-Unis. Parce que pour l'essentiel, soit on les fabrique de façon automatique, avec des machines ultra-modernes qui utilisent le laser, etc., etc., pour fabriquer tout ça, ou bien ils sont importés effectivement d'un certain nombre de pays. Le Vietnam est un des derniers dont les exportations se développent, mais sinon il y a le Mexique, il y a les pays d'Amérique latine, il y a tous les pays d'Asie. Et donc c'est presque un miracle qu'il y a encore eu ces emplois qui subsistaient à New York. Qui est en plus une ville très chère.
De différents.
Oui, c'est 200 000 inscriptions hebdomadaires au chômage qu'évoque Anton Brander à l'instant. C'est le niveau le plus faible qui n'ait jamais été observé.
Ça rapporte à la taille de la population qui travaille.
Donc, on est vraiment sur une dynamique du marché de l'emploi qui est tout à fait phénoménale. À tel point, donc, on a évoqué les difficultés de recrutement, mais quand vous regardez le taux d'emploi aux États-Unis, qui est vraiment la métrique qu'il faut regarder, donc quand vous rapportez la population en emploi à la population en âge de travailler, eh bien, vous vous rendez compte qu'on est à un niveau qui est tout à fait cohérent à ce que l'on connaissait avant la crise de 2008-2009.
Un détail près, si vous permettez, qui est quand même que pour le cœur de la population active, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, en particulier la crise des opiacés, eh bien, le taux d'emploi des hommes de 25-54 ans, il est toujours inférieur à ce qu'il était avant la crise. Et c'est là où on voit la trace. De ce qui s'est passé en matière de dégradation de la santé aux États-Unis, les hommes, blancs en particulier, dans cette catégorie d'âge, ont toujours des taux d'emploi qui sont inférieurs à la normale. Et c'est là qu'on va puiser la main-d'œuvre dont on a besoin, et on y arrive plus ou moins, parce qu'il monte beaucoup plus lentement que celui des femmes, ce taux d'emploi des hommes. Eh bien, c'est là qu'on a encore un petit réservoir de main-d'œuvre pour alimenter les créations d'emplois de l'économie américaine.
Peut-être un élément à ajouter justement sur cette idée de rotation, parce que c'est ça qui compte en fait dans le dynamisme d'une économie, c'est sa capacité à se renouveler, à avoir des destructions certes, mais également des créations d'emplois. Et à la fin, ce qui compte, c'est qu'il y a plus de créations qu'il y a de destructions. Pour autant, quand il y a un point qui est quand même assez spectaculaire dans le cadre de l'économie américaine, c'est l'évolution de la démographie d'entreprise. Non pas sur les emplois, mais sur le fait que vous avez des entreprises qui disparaissent moins. C'est-à-dire qu'on a moins de disparitions d'entreprises et on a aussi moins de créations d'entreprises. Parce que justement, avec ces taux qui sont extrêmement bas, souvent les entreprises pouvaient disparaître parce que elles se trouvaient face à une contrainte de solvabilité. Des taux d'intérêt qui montent et donc vous avez une dette de plus en plus lourde à rembourser et à un moment vous n'y arrivez pas, les entreprises disparaissent. Or, comme les taux sont très bas, eh bien on a d'une part de ce que l'on appelle de zombification de l'économie. Vous avez des entreprises qui spontanément auraient disparu, qui sont en réalité maintenus artificiellement en vie. Et ce faisant, vous avez quand même un peu moins de rotation, non pas dans l'emploi, mais de rotation dans la vie des entreprises qui s'est ralentie. C'est un des éléments qui participe à moins de gains de productivité dans l'économie américaine.
Ce qui me frappe
américaine.
En vous écoutant, c'est que cette économie américaine, c'est un peu un rêve d'économiste. Anton Brander.
C'est peut-être aussi le cauchemar de beaucoup de gens. Ceux qui y vivent n'ont pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'autre caricature. Tout ne va pas bien et de beaucoup dans l'économie américaine. Bon, la répartition des revenus, la couverture sociale,
l'espérance de vie.
Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais la mécanique de l'économie américaine, sa mécanique, je ne parle pas de la vie des gens, mais de la mécanique de l'économie américaine, elle est relativement bien huilée.
Alors, vous disiez que l'agitation de Donald Trump autour des taux d'intérêt, de la réserve fédérale, elle crée de l'incertitude.
Et surtout autour de la guerre commerciale.
Voilà,
c'est pas ça qu'il critique la Fed. C'est qu'il crée une ambiance d'incertitude sur que va être demain l'environnement commercial dans lequel l'entreprise va fonctionner.
Bonne différence.
Oui, il y a un peu une recherche de bouc émissaire permanent. Donc, quand ce n'est pas Xi Jinping, ce sera Angela Merkel ou ce sera le Vietnam. Et ce sera, de temps en temps, Jérôme Powell, le patron de la Fed. Donc il y a bien cette rotation, et c'est ça qui participe véritablement de cette incertitude qui fait à la fin, mais où est-ce que moi, entrepreneur, je vais pouvoir localiser mes investissements? On me promet une augmentation de tarifs douaniers qui va faire en sorte que l'entreprise que j'avais délocalisée en Chine, d'un seul coup, ne sera plus profitable quand je vais rapatrier des produits aux États-Unis. Est-ce que vraiment ces tarifs-là vont être augmentés? Je n'en sais rien. Pendant un temps, je gèle mes décisions d'investissement. Et ce n'est pas surprenant qu'effectivement, le chaînon qui va être manquant à la croissance américaine dans les prochains trimestres, ce sera l'investissement des entreprises. Il y aura toujours ce socle qui est associé à la consommation des ménages, en tout cas à un horizon, on va dire, de la fin de l'année, c'est ce qui est l'horizon le plus probabilisable, mais en revanche, on peut être à peu près assuré que l'investissement des entreprises manquera.
Et donc ça va se sentir en 2020, en termes
de... Bien sûr, et si l'économie américaine ralentit, c'est à cause de ça. Et toute la stratégie de la Fed, on y revient, c'est d'éviter que ce ralentissement auquel elle a peu contribué, parce que l'investissement des entreprises est peu sensible au taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on a parfois en tête, même si c'est pas elle qui a provoqué ce ralentissement, elle va essayer d'éviter que ça ne débouche sur une récession, parce qu'effectivement, s'il y a la situation d'un certain nombre d'entreprises qui se dégradent parce que l'économie ralentit, à ce moment-là, le poids de l'endettement accumulé pourrait produire ses effets et on pourrait voir le ralentissement amplifié par la charge d'endettement de certaines entreprises. Et tout ça fait que on verrait à ce moment-là des licenciements, on verrait l'emploi décélérer. Et si l'emploi décélère, le revenu des ménages décélère. Si le revenu des ménages décélère, la consommation, elle faiblira. Et c'est cet enchaînement-là que la Fed veut à tout prix éviter. Elle ne veut pas provoquer de récession et même elle veut éviter.
Dans les derniers projets qu'il a évoqués, Trump veut par exemple doter le ministère du Commerce de nouveaux pouvoirs. Ce ministère pourrait faire fluctuer les droits de douane en fonction du niveau des monnaies étrangères, des taux de change par rapport au dollar. Une monnaie étrangère jugée trop faible par rapport au dollar serait interprétée comme une mauvaise manière faite aux Américains, comme une pratique de dumping. Est-ce que ça, c'est de l'incertitude qui sera ajoutée à de l'incertitude, ça?
Alors, on sait qu'on est déjà dans un régime de change flottant. Et ça, depuis maintenant bientôt 50 ans. Maintenant, si on rend flexible en plus les droits de douane, bon là, c'est de l'incertitude au carré
qui est flottant, on n'avait jamais vu ça.
On ne connaît pas. Effectivement, il y a de la créativité, mais je ne suis pas certain que ce soit la créativité qui soit génératrice de véritables stimulations économiques.
C'est une antiphrase.
Si vous voulez, oui, c'est une antiphrase. C'est un oxymore, appelons-le comme on veut.
Anton Brender, vous, comment est-ce que vous voyez l'économie américaine à horizon d'un an? Est-ce qu'on peut prévoir?
Malheureusement, c'est une banalité de le dire, les économistes, ils arrivent à peu près à dire comment fonctionnent des mécanismes. Oui. Ils ont beaucoup plus de mal à prévoir les comportements d'hommes politiques. Et malheureusement, aujourd'hui, Donald Trump, presque à lui tout seul, je caricature un peu parce qu'on a quand même ici, en Europe, le Brexit, tout ça, où il y a quand même là aussi des politiciens qui jouent un rôle, mais presque à lui tout seul, Donald Trump arrive à perturber toute possibilité de prévision. Si effectivement il arrive à affecter sensiblement l'investissement des entreprises, eh bien l'économie américaine va décélérer fortement. Si on reste dans cette ambiance de tension commerciale, on aura cette décélération. Si par contre les choses se calment, la mécanique de l'économie américaine, normalement, surtout si la Fed fait ce qu'elle peut, eh bien ne doit pas générer de récession. Donc normalement, l'année prochaine, on ne devrait pas avoir de récession aux États-Unis. Mais on ne peut absolument pas, et c'est là où l'économiste, enfin je ne sais pas si Denis Ferrand est plus à l'aise, mais on ne peut pas exclure l'idée qu'il y ait une récession si les choses continuent comme elles sont engagées actuellement.
Denis Ferrand.
Déjà, premier point sur le rythme que l'on peut anticiper sur la croissance américaine. Un peu le rythme fondamental, ce n'est pas du tout le rythme que l'on connaît actuellement, ce n'est pas le 3%. 2%. C'est plutôt un petit 2%. Ça, c'est le rythme fondamental auquel l'économie américaine peut croître et c'est le rythme vers lequel la Fed veut faire revenir la croissance américaine. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un ralentissement qui est pour l'instant de l'ordre du bienvenu. Il y a quelques indicateurs qui nous disent qu'on pourrait aller vers une récession. C'est le fait que les taux à 10 ans soient devenus inférieurs aux taux à 1 an sur les obligations d'État. Je ne suis pas persuadé que cet indicateur-là ait la capacité prédictive d'une entrée en récession dans les 12 prochains mois, ce qu'il a fait par le passé. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est le point qu'évoquait d'ailleurs Anton, il n'y a pas d'augmentation de la charge financière pour les entreprises. Pour l'instant, c'est un élément qui évite une basculement en récession.
Pour l'instant, ça tient. On verra d'ici 2020 si ça va continuer à tenir. Cette émission est terminée. Merci à vous, Anton Brender, Denis Ferrand, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez retrouver Codici Eco d'ailleurs sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.